les jardinières.
On entame le dernier week-end du mois de mars en parlant jardinage. Du coup, bienvenue chez les jardinières. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Et ce matin, nous parlons de plantes aromatiques en compagnie de Jordi Gonzalez. Bonjour Jordi.
Bonjour Mylène, bonjour Brian.
Jordi Gonzalez, vous êtes horticulteur et propriétaire avec Rebecca Lunchinger du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Merci d'être avec nous ce matin.
Et les jardinières, c'est tous les samedis, on vous accompagne jusqu'à 8h.
7h, 8h. Les jardinières.
On passe à l'heure d'été. Cette nuit, on perd donc une heure de sommeil, mais ce n'est pas une raison pour procrastiner. Jordi, qu'est-ce qu'on fait au potager ce week-end, même avec des cernes et le manque de sommeil?
Déjà, on peut observer. Il y a tous les bulbes qui sont en fleurs maintenant, c'est magnifique. Il y a des odeurs aussi. J'ai vu hier que les tulipes commencent à s'ouvrir et je trouve ça génial. C'est vraiment une belle période. On peut déjà commencer évidemment à faire du rangement et à préparer le jardin pour les plantations prochaines d'avril, mai, etc. quoi.
Merci Jordi, vous êtes notre invité jusqu'à 8h et vous répondrez aux questions de nos auditeurs en seconde partie d'émission. Des questions qu'on attend par téléphone au 0900 70 20 20, mais aussi via le formulaire disponible sur notre site. Vous pouvez joindre une photo à votre question ou alors par SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Après la pause musicale, Jordi, vous allez nous parler de l'entretien de nos plantes aromatiques après l'hiver et nous faire découvrir des plantes aromatiques peu connues mais qui méritent leur place dans notre potager.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, avec vous Jordi, nous allons plutôt prendre soin de nos plantes aromatiques et vous allez aussi nous présenter quelques espèces peu connues mais qui méritent leur place dans nos jardins. Mais on va commencer par l'entretien. Le printemps est là. Quelles sont les premières choses à faire pour bien réveiller nos plantes aromatiques après l'hiver?
Alors, on peut déjà regarder, observer, ça c'est un truc très important. On va pouvoir tailler les plantes aromatiques comme la lavande, le thym. On va pouvoir justement tailler au printemps pour un petit peu rajeunir le bois, éviter qu'il y ait trop de vieux bois qui ne va pas être très productif. On va pouvoir les engraisser avec un petit peu d'engrais ou un petit peu de compost. C'est la meilleure période parce qu'elles recommencent à pousser. Elles ont besoin d'énergie à ce moment-là. Et on va peut-être pouvoir les arroser suivant les périodes suivant le soleil ou le vent qu'il y aura. Mais on en reparlera plus tard.
Alors, certaines plantes aromatiques comme le basilic ou la coriandre sont un peu plus sensibles aux températures fraîches. À quel moment, quel est le moment idéal en fait pour les semer ou les transplanter?
Alors, pour le semis du basilic ou de la coriandre, il peut être fait gentiment maintenant. Vous pouvez faire ça sur votre bord de fenêtre, à la cuisine, à l'intérieur, il fait bien assez chaud pour semer. Si vous réussissez à arriver à avoir des beaux semis et des belles plantes, vous pourrez les transplanter d'ici à début mai pour la plaine. Il faudra attendre les seins de glace pour la montagne, ou bien enfin, le Val de Rue, les vallées, la montagne, tout ça. Et voilà, après vous pourrez profiter cet été de vos plantes aromatiques.
Vous avez touché un mot sur l'arrosage, hein. C'est peut-être un peu délicat au printemps, trop ou pas assez d'eau, on ne sait jamais comment trouver le bon équilibre. Comment on fait pour savoir si on est juste?
Alors, pour les plantes aromatiques vivaces, comme j'ai parlé de la lavande avant, j'ai parlé du thym aussi, c'est des plantes qui, généralement, n'ont pas besoin d'énormément d'eau. Elles vivent plutôt, dans la nature, on va les trouver dans des terrains plutôt séchards. Donc, il ne faut pas non plus trop les arroser. Si vous voyez qu'il y a une grosse semaine de soleil, avec peut-être une bise aussi, on a tendance un petit peu à oublier, mais le vent, ça sèche énormément la terre. Là, on va pouvoir les arroser, sinon il faut laisser la nature faire son bout de chemin.
Alors, c'est pas vraiment le cas aujourd'hui, mais le soleil en général revient en force. Mais toutes les plantes aromatiques n'ont pas les mêmes besoins en lumière. Quels conseils est-ce que vous pouvez donner pour bien les positionner dans son jardin ou son balcon?
Alors, pour la plupart des plantes aromatiques vivaces, à part la menthe et la mélisse, on va préférer le plein soleil. Pour la menthe et la mélisse, ce sera une mi-ombre ou bien une ombre très lumineuse. Maintenant, pour les plantes aromatiques annuelles, il y en a beaucoup qui ne supportent pas très bien le soleil. On va prendre l'exemple du basilic, qui n'aime pas du tout le soleil. Donc là, on va trouver un endroit qui est ombragé, mais très lumineux. Un endroit qui est à l'abri du vent, un endroit qui est à l'abri de la pluie aussi. Pour la coriandre, on peut partir sur à peu près le même emplacement. La nette, on va dire que ce sera la même chose. Et puis voilà.
Donc pour le basilic, la nette, la coriandre, ça serait bien de leur faire quand même un petit abri pour que soit pas perturbé ni par la pluie ni par le soleil.
Oui, ça pourrait. Ou alors mettre simplement dans une jardinière sur le balcon, enfin à l'abri. Ça pourrait être sous serre aussi, sous les, le basilic, on pourrait le mettre sous les plants de tomates, une fois qu'on a planté les tomates. Il y a différentes façons de faire, mais oui, fabriquer un abri, ce n'est pas une mauvaise idée.
Et Jordi, est-ce que vous avez des astuces naturelles, bien sûr, pour protéger nos plantes aromatiques des maladies ou autres insectes sans produits chimiques?
Alors, c'est toujours le gros problème. Bon, déjà, il faut savoir qu'on peut laisser un petit peu aussi faire les insectes, faire la nature, parce que typiquement, les pucerons vont attirer des coccinelles, ils vont se faire manger par les coccinelles. Donc, il y a quand même quelque chose qui va se régler, qui va se régler tout seul. Ensuite, si vraiment ça devient problématique, on va pouvoir utiliser des mélanges à base de savon noir. On pourrait aussi imaginer de planter une absinthe quelque part dans le jardin. C'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'entretien, mais qui va attirer les pucerons dessus. Donc, ils vont sûrement aller sur l'absinthe et laisser tranquille vos autres plantes aromatiques. Et d'ailleurs, les autres plantes aussi.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, on parle d'herbes aromatiques ou de plantes aromatiques chez les jardinières en compagnie de Jordi González, horticulteur à Neuchâtel. Alors, on connaît tous les plantes aromatiques, on va dire standards, genre ciboulette, persil ou basilic. Mais Jordi, est-ce qu'on peut cultiver des plantes aromatiques exotiques sous nos latitudes? Si oui, lesquelles?
Oui, bien sûr. En fait, on peut en cultiver une multitude de ces plantes aromatiques exotiques. On va préférer les cultiver en annuel, donc sur une année. Parce que des fois elles peuvent être compliquées à hiverner pendant l'hiver. Il y en a des qui ont des besoins très compliqués, il y en a d'autres qui ont des besoins qui ne sont pas si compliqués que ça. On va voir. Alors, on pourrait déjà parler de la stevia, par exemple, qui est une herbe sucrée et qu'on va pouvoir utiliser comme... alternative au sucre, pardon. celle-là, on va la cultiver en annuel, par exemple. Elle est très compliquée à hiverner. En appartement, ça va pas du tout parce qu'il fait beaucoup trop sec. En serre, même nous, on a de la peine parce qu'on a des taux d'humidité qui sont un petit peu trop élevés en hiver. Il n'y a pas assez de lumière, surtout. On aurait aussi une qui s'appelle le cresson de para. C'est une plante qui est assez rigolote. Elle vient de Madagascar. Là-bas, elle est appelée Bread Mafan. Elle est utilisée pas mal pour donner du goût au ragoût de poisson. Et c'est beaucoup les feuilles qui sont utilisées. Mais les fleurs ont vraiment un effet... Enfin, quand on mange une fleur, c'est un effet anesthésiant dans la bouche, un petit peu comme le poivre de Sichuan, mais en vraiment beaucoup, beaucoup plus fort. Moi, si vous passez au jardin, je pourrais vous en faire goûter avec grand plaisir.
Ah oui, il faut qu'on goûte ça.
Il y en aurait d'autres, comme il y a des sauges à l'ananas, il y a une sauge au cassis aussi. La sauge à l'ananas qui est assez facile à hiverner en hiver, il faut juste un local hors gel. La sauge cassis, elle est un petit peu plus demandeuse, mais en local hors gel, en général, ça fonctionne aussi. Et en fait, il y en a bien d'autres, mais je ne vais peut-être pas toutes vous les citer.
Juste pour les sauges, on sent vraiment un arrière-goût ananas ou cassis?
Alors, c'est surtout l'odeur. Le goût, il est très difficile à fixer. Il y a des cuisiniers qui arrivent. Hein. Enfin, c'est utilisé par certains cuisiniers. On a eu un cuisinier qui venait de je ne sais plus exactement où, mais qui nous a dit qu'il avait réussi à fixer, par exemple, le goût d'huître d'une plante à goût d'huître. Donc, c'est pas une sauge, mais réussi à refaire une huître végétale avec ça, ce qui est assez intéressant. Et puis après, ben oui, on a justement, on arriverait dans des préparations à base d'huile, mais c'est assez compliqué d'avoir ce goût qui vient, quoi.
Mais alors, est-ce que les plantes aromatiques, en général, elles ont besoin de soins spéciaux?
Alors, les plantes aromatiques n'ont pas spécialement de besoins spéciaux. Maintenant, ces plantes aromatiques un peu exotiques, elles ont peut-être des demandes de plus de chaleur en été. Donc, on va préférer des endroits dans le jardin où il fait plus chaud, où ça chauffe plus vite le matin. Ensuite, au niveau de la terre, par exemple, on va prendre des terres qui sont plus légères. Généralement, elles viennent de sols beaucoup plus drainants que chez nous. Et du coup, c'est bien de rajouter un peu une structure au sol pour que l'eau elle puisse passer, s'infiltrer et pas stagner dans le sol. Elles n'aiment pas du tout les excès d'eau, ces plantes.
Et Jordi, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes qu'on fait lorsqu'on cultive ces plantes aromatiques peu connues?
Je dirais les excès d'arrosage. C'est souvent le problème. On se dit « Oh, la plante va pas bien, du coup on a tendance à arroser, 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 arroser. » En fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, c'est l'inverse, la laisser tranquille et la laisser s'épanouir toute seule.
Et quelles sont les meilleures plantes aromatiques exotiques que l'on peut facilement cultiver en pot sur un balcon?
Alors, j'ai parlé de la stevia, ça, c'en est une qui est très bien. Le cresson de Para aussi en est une très bien. Ensuite, on a des aromatiques, on va dire, exotiques, mais qui viennent plus d'ici. On aurait une menthe fraise, par exemple, qui est hyper facile à cultiver, c'est une menthe. Je parlais avant du poivrier de Sichuan. Celui-là, il est assez facile à cultiver. On peut le cultiver très bien en plaine. Il passe l'hiver sous nos climats. Il y a un monsieur qui cultive ça à Aigle, il me semble.
Donc on peut avoir son propre poivre.
Oui, mais c'est poivrier du Sichuan, c'est un poivre qui est très spécial. Hein.
Je le connais pas, j'avoue.
Mais ça vaut le détour.
Les jardinières.
Chaque samedi, on vous accompagne entre 7h et 8h pour parler jardinage. Ce matin, nous sommes en compagnie de Jordi González, horticulteur et propriétaire avec Rebecca Luchinger du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Jordi, on parle de plantes aromatiques ce matin. Vous nous avez donné des conseils sur leur entretien. On va encore poursuivre cette discussion dans un instant et vous allez également répondre aux questions des auditeurs.
Et on les attend, vos questions, soit par téléphone, ou vous pourrez poser votre question en direct à Jordi. Il vous suffit de composer le 0901 70 20 20. Vous pouvez aussi choisir de remplir le formulaire sur notre site et glisser une photo avec votre question. Ça peut être pratique. Ou alors nous écrire un SMS, vous tapez jardin, un espace, votre question et votre nom, et vous nous l'envoyez au 939.
Alors Jordi, vous nous avez expliqué tout à l'heure que ces plantes aromatiques exotiques, c'était mieux de les planter en annuel parce que c'était difficile de les garder en hiver. Mais si on veut quand même les avoir en hiver, qu'est-ce qu'il faut faire pour les protéger du froid ?
Alors déjà, il faut essayer de les faire passer l'hiver parce que je trouve que le jardin, c'est aussi une expérimentation et c'est ça qui est chouette avec le jardin. Maintenant, il y a plein de techniques qui peuvent être utilisées. Vous pouvez essayer de faire un petit dôme en plastique autour de votre plante aromatique exotique. Vous pouvez la couvrir de feuilles mortes. Ça va augmenter un petit peu la température qu'il y aura au pied de la plante. Vous pouvez aussi essayer de la transplanter en pot, de la rentrer à l'intérieur ou dans un local hors gel, dans un garage par exemple, avec de la lumière ou autre. Et puis j'avais une autre idée, vous pouvez acheter des cordes chauffe aussi que vous pouvez brancher à une prise, qui sont munies d'un thermostat et qui vont garder la plante à une certaine température que vous pourrez choisir.
Donc c'est comme un tapis, on la pose dessus ou c'est un manteau?
C'est vraiment comme un fil de fer où vous entourez un peu le tronc de la plante avec. Et puis vous branchez à la prise et puis quand il fait trop froid, il va s'allumer, un peu chauffer et puis du coup voilà.
Et Jordi, pour les personnes qui aimeraient découvrir des plantes aromatiques un peu moins connues, pour sortir des sentiers battus, vous leur proposez de débuter avec lesquelles ?
Alors la première que je proposerais, ce serait la menthe fraise, parce que c'est une menthe, c'est très facile à cultiver. Donc ça, ce serait vraiment le plus facile. Après, il y aurait la sauge ananas, qui est aussi assez facile à cultiver, qui craint pas trop le froid en hiver, qui est très jolie avec sa floraison rouge sang, vraiment. Vous auriez aussi, je parlais du bread muffin avant, ou le cresson de Para, c'est une plante qui est très facile à cultiver et qui, de toute façon, est annuelle. On n'arrive pas du tout à la faire passer l'hiver, celle-là.
Mais du coup, est-ce qu'on peut attendre la floraison, récupérer les graines pour ensuite les réutiliser l'année d'après ?
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait, nous.
Donc voilà, comme ça, rien ne se perd, tout se garde. Et pour terminer, Jordi, votre plante aromatique préférée à vous, ouais, on est curieux chez les jardinières, c'est laquelle et pourquoi ?
Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais du coup, c'est le cresson de Para. C'est une plante que je trouve assez rigolote et justement cet effet anesthésiant dans la bouche, il est vraiment très surprenant et j'aime bien faire des blagues un peu à mes amis en leur donnant une fleur comme ça et leur dire vous pensez quoi de ça, et enfin sans vraiment dire ce que c'est. C'est un peu méchant, mais c'est rigolo.
Et vous l'utilisez dans des plats ou c'est juste pour embêter vos amis ?
C'est surtout pour embêter. Après, on a déjà essayé de l'utiliser en cuisine. Et en fait, les feuilles ont beaucoup moins cet effet anesthésiant et c'est beaucoup plus agréable. Et ça, c'est bien. Enfin, ça peut être utilisé dans des ragoûts vraiment poisson, viande, c'est égal, quoi.
7h, 8h. Les jardinières.
7h41 chez les jardinières. Nous sommes toujours en compagnie de Jordi González. Et Jordi, je crois que vous êtes fait recadrer, si on peut dire comme ça.
Effectivement. En fait, le cresson de Para vient pas de Madagascar, mais d'Amérique du Sud. Ils l'ont eu à Madagascar un peu plus tard, mais ils l'utilisent beaucoup à Madagascar. C'est pour ça que j'ai fait la faute. Et j'ai oublié de dire que c'est un exhausteur de goût, en fait, aussi.
Et pas seulement un anesthésiant.
Exactement. Voilà. Mais moi, je l'aime pour son côté anesthésiant, cette fois.
Jordi, il est temps de répondre aux questions des auditeurs. Des questions, on vous rappelle, vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20 pour nous parler en direct. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site et glisser une photo. Ou alors un SMS, vous tapez jardin suivi d'un espace de votre nom, votre question d'abord et votre nom. Et vous nous l'envoyez au 939.
Et on va tout de suite enchaîner avec une question qui nous vient de la Chaux-de-Fonds d'une certaine Marina. Elle nous pose cette question. Jordi, écoutez bien, je vois des bourgeons qui apparaissent sur mes arbres fruitiers. Est-ce qu'il faut les protéger du froid ? Ce week-end, on annoncerait de la neige, visiblement. Merci.
Alors, la neige, c'est pas un problème déjà pour les bourgeons. Ensuite, le froid, oui, mais à la Chaux-de-Fonds, ils annoncent pas en dessous de 0 degré ce week-end, ni la semaine prochaine d'ailleurs. Et du coup, c'est pas des températures qui sont non plus extrêmes pour ces bourgeons qui quand même tiennent, avant l'ouverture du bourgeon, il arrive quand même à tenir dans les températures négatives.
Donc, pas d'inquiétude pour les bourgeons de Marina. On va rester un petit peu dans ces hivers-là. Certaines personnes ont mis des protection hivernale sur leurs plantes. Comme les températures maintenant ne semblent plus être négatives, est-ce qu'on peut retirer ces protections ?
Alors, si on est en pleine, je pense que c'est gentiment le moment de retirer les protections. Si vous les laissez trop longtemps, ça risque aussi d'abîmer le feuillage ou bien de faire du mal à la plante. Parce qu'il commence à faire chaud et sous la protection, il fait aussi plus chaud.
Et puis, si on a un arbre qu'on a rangé dans sa cave, typiquement un olivier ou un citronnier, on peut les sortir ou c'est encore un peu vite ?
Nous, on a déjà commencé à sortir la semaine passée, donc vous pouvez très bien commencer à les sortir. Maintenant, il faut juste avoir une solution de repli si tout d'un coup, il vient des gelées tardives, ce qui va certainement arriver.
Merci beaucoup, Jordi.
Et on va enchaîner avec une deuxième question. On va parler de patates. Nous avons acheté des pommes de terre en une grande surface que nous n'avons pas encore mangées, mais qui commencent à germer. Est-ce qu'on peut les planter au jardin ? Si oui, comment et quand ?
Alors, bien sûr qu'on peut les planter au jardin. Maintenant, planter une pomme de terre, c'est pas si compliqué que ça. Il faut faire un petit trou dans la terre à, je dirais, une dizaine de centimètres et puis planter cette pomme de terre. Il faudra attendre qu'elle commence à pousser, puis après, vous pouvez remonter la butte autour de la pomme de terre. Ça va lui permettre de faire plus de pommes de terre et surtout que les pommes de terre soient pas vertes. Et pour le moment de plantation, je pense que maintenant, c'est à peu près le moment. Elle n'aime pas le gel, la pomme de terre, mais d'ici à ce qu'elle sorte, elle est cachée sous la terre et sous la terre, ça ne va pas geler plus que ça ces prochains temps.
Et les pommes de terre, quand elles germent comme ça, on voit souvent que les germes prennent une direction, probablement celle de la lumière. Est-ce qu'il faut les planter vers une certaine direction ou vraiment on la prend, on la met dans le jardin comme elle vient et puis voilà.
Alors, il faudrait éviter de casser les germes, si possible. Mais par contre, il faut la prendre et la mettre comme elle vient, quoi.
Donc, c'est pas ça, c'est pas les racines, c'est égal. Vous faites des signes, on a la radio, personne ne voit.
Oui, alors c'est mieux d'avoir les germes qui vont contre le haut. Mais si vous les mettez contre le bas, ils vont repartir contre le haut. Hein.
Ils
savent où ils doivent aller.
Merci beaucoup, Jordi. Donc, on sait ce qu'on a à faire. S'il nous reste des pommes de terre qu'on n'a pas voulu manger, on va parler de taille de rosier. Est-ce qu'on peut encore tailler un rosier, par exemple, ce week-end ? C'est une personne qui ne l'a pas fait depuis 2 ans. Le rosier est assez grand. Il mesure 1,80 m et part dans tous les sens.
Alors là, oui, c'est exactement le moment pour faire la taille du rosier. Ça se fait entre mars et mai, donc on est bien dans les temps. Même assez tôt, je dirais. Et puis, oui, il peut être taillé. Il faut faire attention de tailler pas sur du bois qui est trop vieux, parce qu'il y a des risques de tuer le rosier. Et ensuite, il pourra aussi être taillé en été. Pendant sa phase de floraison, vous pouvez tailler les fleurs fanées. Ça lui permet de refleurir plus et toujours plus, en fait.
7h, 8h, les jardinières.
7h50 chez les jardinières, c'est vraiment le dernier moment pour répondre aux questions que vous avez posées à Jordi. Jordi, on va vous poser une question qui tombe bien en cette période. On nous demande quel type de semences ou de plantes puis-je commencer à planter en ce dernier week-end de mars. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, on pourrait semer des salades, des choux ou alors déjà les planter. En fait, les salades peuvent être déjà plantées. On peut juste les couvrir avec un voile en agrile, par exemple, pour pas qu'elles gèlent s'il devait y avoir des gelées au sol ces prochains jours. Mais on peut commencer à planter des choux, on peut commencer à planter plein de choses, dont des fleurs vivaces, des aromatiques vivaces pour cet été déjà. Pour les fleurs qui vont fleurir le jardin en été, on peut parler des échinacées, on pourrait parler de la santoline, de la lavande, il y a des lavandes blanches qui existent aussi. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre ? Il y aurait de la sauge des bois, mais celle-là va fleurir plus tôt. On sera plutôt aux alentours de mai-juin pour la floraison. Et puis, d'autres aromatiques vivaces qui tiennent très bien sous nos climats, comme le thym, la sauge, l'origan et tout ça, quoi.
Et puis, est-ce que c'est bon pour ces semis d'aussi nourrir le sol ? Est-ce qu'on peut encore mettre du compost sur notre sol ?
Oui, je dirais que c'est le meilleur moment maintenant de mettre du compost sur le sol parce que, en fait, c'est maintenant que le sol a besoin de compost, que les plantes, elles se réveillent et qu'elles ont absolument besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir produire des fleurs et s'épanouir pendant la saison estivale.
Alors, peut-être pour éclairer les personnes qui ne sont pas connaisseurs, hein, le compost, on ne parle pas des épluchures de cuisine qu'on a dans notre petit seau. Puis qu'on va lancer, c'est vraiment un compost qui est mature.
Oui, c'est un compost qui est fait déjà, quelque chose qui a, on va dire, entre 3 et 4 ans. Et puis ça s'achète en jardinière ou bien si vous avez un compost au fond du jardin, bah, c'est au fond du tas de compost.
On le retourne et on met sur le jardin.
Exactement.
L'heure file, Jordi, vous êtes là depuis 7 heures. On a parlé de plantes aromatiques. Tous vos conseils et vos idées de plantes peu connues seront disponibles en podcast, en cours de matinée sur notre site. Avant de vous laisser filer, qu'est-ce qu'on peut faire en extérieur en ce dernier week-end de mois de mars et pas forcément si on a un jardin. Qu'est-ce qu'on peut faire
Vous dites comme ça.
Par exemple, en balade.
En balade. Vous pouvez passer au Jardin des Senteurs. Non, je rigole, on n'est pas là ce week-end. Vous pouvez aller voir en ville de Neuchâtel, par exemple, il y a les cerisiers qui sont en fleurs. Moi, c'est une période magnifique que j'adore maintenant. Et contre les murs, il y a les aubriettes aussi. Ça fait des... un tapis violet qui sort des murs, c'est très très joli. Vous pouvez vous promener dans la nature. Bon, c'est peut-être pas le meilleur week-end avec la bise et le temps qu'ils annoncent. Ouais. Mais sinon, on peut aller tailler au jardin, on peut planter des choses au jardin et puis on peut mettre du compost au jardin, par exemple.
Et puis c'est aussi la bonne période pour aller faire des petites cueillettes sauvages. Je pense par exemple à la dent de lion, c'est le moment ?
Oui, c'est le moment d'aller cueillir la dent de lion, elle est en train de sortir un peu partout. On aurait aussi l'ail des ours qui est maintenant en plaine, en tout cas en montagne, il faut encore attendre un petit peu. Mais qui est en train de sortir et les pestos à l'ail des ours, c'est super bon, le beurre à l'ail des ours aussi et on en a des déclinaisons qui sont infinies en fait.
Et on parlera cuisine prochainement chez les jardinières avec vous Jordi, merci.
Merci Jordi pour vos explications et vos conseils. On rappelle que vous êtes horticulteur et propriétaire avec Rebecca Luchinger du Jardin des Senteurs à Neuchâtel. Très bon week-end et puis à bientôt chez les jardinières.
Merci beaucoup, bon week-end.
Bonne cueillette d'ail des ours. Les jardinières seront de retour samedi prochain dès 7h. Nous débuterons le mois d'avril avec Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve. Et vous avez toute la semaine, comme d'habitude, pour nous faire parvenir vos questions via le formulaire disponible sur notre site ou alors par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question. Vous nous l'envoyez au 939. Bon week-end, Brian.
Bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous.
7h. 8h, les jardinières.